Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Moi, c'est le professeur Véronique Kavuo-Kaindo de l'ULPGL, la faculté de théologie. Et je suis évangéliste à la paroisse CBK Himbi 1. Ensemble, ouvrons Matthieu 28, l'évangile de Jésus-Christ qui a été écrit par Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. Ensuite, nous allons lire la lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, 1 à 5. Lisons dans le nom du Seigneur, Matthieu 28. Quant à 11 disciples, ils se rendirent à Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, parole du Seigneur. » Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 5. Je lis toujours dans le nom du Seigneur. « Au sujet de l'assistance à faveur des saints, il est inutile que je vous écrive. » Je sais vos bonnes intentions et j'en tire fierté pour vous auprès des Macédoniens. L'Achaïe, leur dirais-je, est prête depuis l'an dernier et votre ardeur a stimulé la plupart des églises. Je vous envoie, les frères, afin que la fierté que j'ai de vous ne soit pas vaine sur ce point et que, comme je l'ai dit, vous soyez réellement prêts. Je craindrais si des Macédoniens viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts et que cette belle assurance ne tourne à notre confusion, pour ne pas dire la vôtre. J'ai donc cru devoir inviter les frères à nous devancer chez vous et à préparer vos dons, vos largesses déjà promises. Une fois recueilli, sera une vraie largesse et non une ladrerie. Parole du Seigneur. Ce matin, il nous a été demandé de développer les grands thèmes ainsi intitulés « L'engagement du disciple pour la mission ». L'engagement du disciple et de Jésus pour la mission. Et ces grands thèmes a son fondement sur l'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. Je vais vous donner seulement la dernière partie de ce verset qui dit « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Qui dit ça? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes ses disciples. Il dit à ses disciples, et nous aujourd'hui nous sommes ses disciples, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et maintenant, le sujet que nous allons développer ensemble est intitulé « Annoncer et consolider l'Évangile pour le salut de plusieurs ». Annoncer et consolider l'Évangile pour le salut de plusieurs. Mais l'objectif que nous poursuivons à développer ce thème et à développer ce sujet, c'est pour que nous puissions nous préparer à offrir notre force, notre être, nos biens, tout ce qui est nous, de l'offrir pour la mission. Et la grande mission du Seigneur que nous venons de lire dans Matthieu 28, 16 à 20. Mais la mission à question est libellée dans le verset 19 et le verset 20. Et cette grande mission est adressée aux disciples de Jésus-Christ juste après sa résurrection, avant qu'il s'en aille auprès du Père. Et il commence en disant que tout pouvoir m'a été donné. Alors comme il a tout pouvoir, et il sait que les disciples qui ont cru en lui, c'est-à-dire ils sont à lui et ils ont aussi ce même pouvoir. Donc c'est-à-dire il a le pouvoir de nous aider à accomplir la mission qu'il nous donne. Et notre prédication de ce matin sera développée sous quelques quatre points qui ne seront pas très, très longs. D'abord, il y a définition de quelques mots. Nous allons parler de cette grande mission selon Matthieu 28, 19 à 20. Ensuite, essayer de voir l'évangile, la mission du Christ qui nous est donnée à nous, mais dans un contexte qui nous a amené à prier pour cette situation, la situation obscure dans laquelle nous traversons. Et en même temps, Jésus-Christ est en train de nous dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et ensuite, l'autre point, maintenant, ça sera vraiment notre thème. Comment allons-nous, comment les vrais disciples de Dieu vont annoncer et consolider cet évangile, maintenant précisément dans le nouveau champ d'évangélisation. C'est pourquoi l'objectif que nous poursuivons des objectifs aujourd'hui durant le développement de notre thème. Le premier, c'est que à la fin de notre entretien, je parle d'entretien puisque ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est un enseignement. À la fin, il faudrait que nous puissions vivifier encore plus notre zèle pour l'évangile dans le nouveau champ. C'est-à-dire, nous avons déjà ce zèle-là. Nous travaillons déjà, mais l'enseignement d'aujourd'hui aimerait que nous puissions encore vivifier. Ouais. Quelque chose qui est là, vous essayez encore d'y mettre un peu d'ardeur. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est le lancement du mois des missions. Donc, du 26 février, je pense jusqu'au 4 avril, nous sommes dans le mois de mission. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement. Il faudrait maintenant, le deuxième objectif, il faut que nous puissions nous préparer déjà pour tout ce que nous pouvons faire pour consolider cet évangile dans le nouveau champ d'évangélisation. Alors, nous devons nous préparer et nous devons être aussi prêts. C'est-à-dire, durant tout le mois, vous serez en train de vous préparer, je serai en train de me préparer pour qu'à la fin, quand on va nous demander maintenant de nous donner, de donner ce que nous pouvons pour que l'évangile soit consolidé dans les nouveaux champs d'évangélisation, que je puisse avoir quelque chose à donner à cela. C'est pourquoi je m'en vais directement à notre premier point qui est la définition des concepts clés. Ce sont les concepts que nous connaissons bien. Il y a le concept de mission. Si vous allez dans le dictionnaire, vous verrez qu'il y a plusieurs sens de mission. Et pour ce qui nous concerne, comme nous sommes à l'Église, j'ai pris le sens religieux de la mission, qui est un appel, qui est une vocation pour les choses religieuses, bien sûr. Et comme nous sommes chrétiens, c'est une mission pour étendre vers le milieu qui ne connaissent pas encore Christ la bonne nouvelle. Amen. Et cette mission nous concerne tous, nous concerne toutes. Il n'y a pas d'exception. Puisque quand Jésus dit à ses disciples, « Allez !» Vous me direz, ces disciples n'étaient que des hommes. N'est-ce pas? C'est ce que les gens disent, non? Mais parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi des femmes. Et parmi elles, il y a celles qui ont même été les premières à être témoins de la résurrection du Christ. Alléluia, les mamans, les jeunes filles. Ouais, elles ont été les témoins. Et elles sont allées s'enfermer. Quand elles ont reçu le Saint-Esprit, il y avait et les hommes et les femmes. Ouais. Et alors, avant d'aller, moi, ma Bible a dit, il a parlé à ses disciples. Ouais. Puisqu'il y a un autre vocable qui est apôtre. Là, c'est autre chose. Ici, nous parlons des disciples. Donc, tous qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté de marcher selon ses préceptes et qui se sont dit, depuis aujourd'hui, Que ce soit la persécution ou pas, nous restons chrétiens. Et c'est ça même le contexte dans lequel notre texte se trouve, surtout le texte de Paul, la lettre de Paul aux Corinthiens. Ouais, la lettre de Paul aux Corinthiens, c'est un texte qui est en train de parler d'un grand collecte de fonds. Alors, il écrit la lettre à l'église de Corinthe, mais lui, il est dans la province de Macédoine. Ouais, je vous appelle de consulter votre géographie, vous saurez les limites de cette province où il y avait maintenant plusieurs églises. Alors, il est là, mais il écrit une lettre à l'église de Corinthe. Et tout ce que nous avons lu, c'est ça le message qu'il leur dit, mais leur collecte sera faite pour Jérusalem. Donc, il y a les saints qui sont à Jérusalem. Donc, les gens qui ont cru au Seigneur, qui vivent à Jérusalem. Mais ils vivent à Jérusalem dans quelle situation? C'était dans une situation de persécution. Ouais. Vous n'êtes pas sans ignorer que juste après le départ du Christ, les chrétiens, donc c'est-à-dire ceux-là qui ont cru à Christ, d'une façon péjorative, on les appelait des chrétiens, donc les disciples de celui qui s'est dit Christ. Aujourd'hui, nous portons cette appellation-là, nous nous disons chrétiens, nous sommes fiers de ça, mais à l'aube du christianisme, c'était comme, je dirais, l'injure, c'était vraiment péjoratif pour montrer une personne qui a cru à un homme que eux dédaignent et qui s'est appelé Messie. Hein? Messie, ça vient de l'hébreu, et Christos, ça vient du grec. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire celui qui est oint par Dieu. Et les personnes qui étaient oint par Dieu, c'était d'abord le prêtre, il y avait aussi les prophètes, et il y avait aussi les rois. Or, lui, il porte aussi les titres de fils de l'homme, les fils de Dieu. Ce sont des titres dans la théologie de l'Ancien Testament qui désignent le roi de la descendance de David. Alors, ils attendaient ces rois-là qui devraient les libérer totalement de la domination romaine. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, je reviens à notre texte. Et on n'a pas vu correctement cette libération-là. Alors, les gens, puisqu'ils pensaient que la libération que Christ a menée était comme la libération de ce monde où il y a quelqu'un qui vient, il se bat pour nous et après nous voyons la paix et nous crions paix, paix, paix. Mais Jésus, lui, n'est pas venu comme ça. Sa paix qu'il nous a amenée, ou bien la délivrance, c'était la délivrance spirituelle, même si la Bible, dans Jean, nous dit que le salut que Christ nous amène, c'est le salut total, le salut holistique. Nous sommes sauvés, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement et aussi mentalement, psychologiquement, ainsi de suite. Alors, j'étais en train de parler du contexte de ces textes de Corinthiens où on fait des collectes pour les saints qui sont à Jérusalem, qui sont persécutés par ceux-là qui n'ont pas cru au Seigneur. Les uns ont déjà fui leur maison. Alors ça, ce n'est plus nouveau pour nous. Nous vivons avec les gens qui ont fui leur village, qui ont fui leur cité, qui ont fui leur... pas nouveau pour nous. Et Jérusalem aussi s'est retrouvée dans une situation pareille. Alors Paul, comme il venait d'évangéliser l'Asie mineure et une partie de l'Europe, il avait fallu qu'il fasse recours à ces églises-là pour supporter ceux qui sont dans la persécution. Mais ils étaient dans la persécution, mais tout en évangélisant, tout en parlant toujours, en se réunissant et en parlant de la parole de Dieu. Alors, il fallait les supporter. Puisque quand quelqu'un est en déplacement, quand quelqu'un est dans la détresse, peut-être il a fui son champ, ses activités, il fallait que les autres leur viennent en aide. Alors, lui, il est à Macédoine, mais il commence par décrire Macédoine, si vous allez au chapitre 8, c'est... une province aussi qui est en difficulté. Lisez un peu le chapitre 8, quand vous serez à la maison, vous verrez. C'est une province, bien sûr, où il y avait plusieurs églises, mais ils étaient pauvres. Ils étaient aussi dans une situation critique. Mais malgré cela, il le vante dans le texte que nous avons lu. Il dit, ça serait embarrassant si je venais avec quelques gens de Macédoine là à Corinthe, il écrit ça dans sa lettre, et que ces gens de Macédoine constatent que vous, les Corinthiens, vous n'êtes pas prêts, ou bien vous n'êtes pas préparés, ou vous n'êtes pas prêts à donner, à être aussi bien baptisés à ces grands collectes qui étaient en train d'être faits. Alors, il les exhorte de ne pas l'embarrasser, de se préparer. Et pour cela, il envoie d'abord le précurseur pour aller le préparer. Et que quand il va arriver, qu'il les trouve prêts et que leur offrande qu'ils vont donner, ici j'étais en train de lire dans Tobe, que ça soit une vraie largesse. Et dans d'autres versions ou en anglais, ça montre qu'il aimerait dire qu'il faudrait que ce qu'ils vont donner, ça vienne de la générosité qui n'est pas poussée. Donc que les gens sachent tout simplement que c'est à nous cette mission-là, c'est à nous d'aider ceux qui sont à détresse et qui sont en train, bien sûr, d'évangéliser. Puisque les gens de Jérusalem avaient une grande tâche de faire connaître Christ. Puisque Christ a vécu là-bas, Christ on l'a crucifié là-bas, et c'est là qu'il y a le temple, nous parlons toujours du temple de Jérusalem, là où il y a les pharisiens, là où ils ne croyaient pas en Jésus-Christ comme Christ, comme le sauveur qu'on attendait. Alors ce genre-là ne devrait que persécuter. D'ailleurs, Paul était l'un des persécuteurs de ces gens-là, de ces chrétiens. Alors, vous voyez la situation dans laquelle ces gens étaient, il fallait qu'on les supporte, qu'on les soutienne. Toujours dans cette mission, donc je suis en train d'aller dans tous ces points que j'ai donnés, ce n'est pas à dire que je vais le suivre intégralement, donc je suis en train de parler de tout. Et si je reviens encore au concept, vous allez voir maintenant, comme je dis que la mission, c'est un appel. Ces gens-là, ils pouvaient même abandonner leur foi. Mais puisqu'ils sentent en eux qu'ils sont envoyés, et comme Christ lui-même, à Matthieu 28, leur avait dit, allez, allez. Donc, sans exception. Et nous qui sommes ses disciples, il nous dit aussi ce matin, allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Paul est en train d'aller, mais il y a aussi les autres qui s'occupent de leur tribu, de leur nation. Alors, il fallait qu'il y ait des entraides, c'est-à-dire des gens qui peuvent être envoyés pour aller proclamer la bonne nouvelle. Et il y avait aussi des gens qui mettaient leur bien. Ceux qui allaient proclamer, c'était au péril de leur vie. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, vous allez voir combien de fois Paul a frôlé la mort. Combien de fois ceux-là qui sont allés évangéliser ont souffert la prison. Donc, ce sont des gens qui se sont sentis vraiment à l'aise dans ce ministère, bien que le ministère était un peu compliqué. Alors, ceux qui n'allaient pas devraient maintenant supporter ce travail. Ici, l'apôtre Paul est en train de vanter les Macédoniens. Mais tout en parlant aux Corinthiens, il dit, « Je connais aussi votre zèle. Alors, ne me cause pas la honte. » Si je viens là-bas avec les Macédoniens, des situations critiques par rapport à vous, mais qui ont donné, qui sont en train de donner beaucoup, alors ne m'embarrassez pas quand je serai là. Je me rappelle notre représentant légal suppléant, le dimanche, je pense que c'est le dimanche passé, il a prêché chez nous sur ce texte. Et après, il nous a donné un peu, brièvement, les statistiques, comment les postes ont contribué pour consoler les gens de Kavignongue quand il y a eu un naufrage de notre chorale là-bas. Nous avons été touchés quand il nous a parlé de ce qu'est le poste Buturande, donc le Rutshuru, ce qu'ils ont donné. Ils ont donné plus que d'autres postes où il n'y a jamais eu de guerre. Ouais. Et même d'autres, là où il n'y a jamais eu de guerre, n'ont rien donné même. Mais pour Buturande, vous avez dit qu'ils ont donné 400. $400. Hein? C'est là qu'ils sont assiégés par les M23, où la population a fui. Les autres sont à Kanyabayonga, les autres, je ne sais pas où. Mais le poste en question a donné $400 pour consoler les autres. C'est un peu ça, les Macédoniens. Hein? Alors, ça fait la honte à des gens qui vivent à Goma, des paroisses qui vivent à Goma, où ils font encore leurs travaux, ils dorment bien, ils vaquent à toutes leurs occupations. ou bien des postes où il n'y a jamais eu de guerre, mais qui n'ont rien donné. Ça embarrasse, n'est-ce pas? Ça embarrasse nos dirigeants qui sont au secrétariat général. Comme Paul aussi dit, ne m'embarrassez pas si j'arrivais là-bas avec un Macédonien. Ouais. C'est une église, peut-être, qui s'est donnée, mais je ne sais pas. Je me rappelle encore, notre pasteur parlait de l'école maternelle, hein, mais que comme c'était en Swahili, il disait qu'il pousse. Donc, il y a des gens qui sont restés à l'école maternelle. Ils peuvent beaucoup prier, ils peuvent chanter, ils peuvent être assis de l'église, ils sont pasteurs, prédicateurs ou prédicatrices comme moi, mais en matière de se donner pour l'évangélisation, oh, ils sont encore dans le kipoussi, dans l'école maternelle. Peut-être même les enfants à l'école maternelle peuvent savoir, ils peuvent apprendre le français, ils peuvent évoluer, mais il y a des gens là qui n'évoluent jamais. Ou soit qui trouvent que chaque fois qu'on parle de l'offrande, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais si vous lisez les livres, les Actes des apôtres, nous n'avons pas eu le temps de tout lire. Si vous lisez les Actes des apôtres dans l'ensemble, vous allez comprendre que les premiers disciples, la première église, avaient compris que la bonne nouvelle, donc le ministère de prédication, est bon et ça sauve les gens. Mais en plus de cela, il fallait les œuvres de charité envers ceux qui sont en besoin. Alléluia. Les œuvres de charité. Ouais. Les œuvres d'amour. Les actes palpables pour montrer que nous aimons Christ et que nous nous aimons et que nous pouvons nous entraider. Alors, dans le contexte de notre thème ou de nos objectifs, où nous parlons de champs hein, missionnaires ou de nouveaux champ missionnaire. Avec moi, vous êtes informés que notre communauté baptiste au centre de l'Afrique est en train d'épanouir, de s'épanouir et en créant de nouveaux champs d'évangélisation. Et quand il y a champ d'évangélisation, donc il faut des missionnaires, il faut des gens qui vont animer ces champs d'évangélisation. Ouais. Nous n'avons pas prévu des images, malheureusement. Il y a des images que j'ai pique dans le groupe WhatsApp des pasteurs, où je vois mes anciens étudiants qui sont envoyés dans le Maniema, Lubumbashi, Sava, mais dans des milieux, dans l'ancienne province orientale, je ne connais pas encore tous les milieux là-bas. Quand ils nous envoient des photos, on les accueille. Il y a certains qu'on accueille là où il y a le temple. Les autres, on les accueille quand le temple est inachevé. Et il y a ceux-là qui arrivent, ce sont eux qui vont commencer tout. Et l'évangélisation, et la construction, d'abord l'évangélisation, l'achat du terrain où on doit construire. Alors s'il n'y a pas le terrain où on va construire, donc c'est-à-dire ces missionnaires-là n'ont même pas de maison. Ouais. Et nous, nous sommes là dans des jolis temples et nous pensons que c'est tout. Non, Jésus nous dit, allez, ceux qui ont reçu cet appel et qui sont partis. Alléluia. Ouais. Ah, vous me répondez avec paresse, c'est comme si vous n'êtes pas convaincu. Convaincu ou pas, c'est une mission que Jésus a donnée à nous toutes et à nous tous. Ah, personne ne peut se mettre à l'écart, ni moi, ni vous. Nous tous, nous sommes concernés par cette grande mission du Seigneur. Ah, si tu as déjà cru au Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, sache qu'aujourd'hui, on te dit « va ». Hein? Faire de toutes les nations. Alors, il y a un missionnaire qui est parti. Il faut que moi, je l'accompagne. Je vais l'accompagner par ma prière. C'est pas mal. Je vais l'accompagner par des pensées hein, positives. Peut-être à l'envoyer des messages d'encouragement. Mais il a besoin de manger. Il a besoin de se vêtir. Il a une famille. Et il doit dormir quelque part. Les chrétiens aussi doivent se sentir qui sont vraiment à la CBK. Oui, quand nous avons des grandes rencontres, comme l'Assemblée générale, souvent nous venons ici, dans ce temple. Votre temple est joli. Peut-être que vous ne le sentez pas puisque vous n'êtes pas habitué d'aller prier ailleurs. Ce temple est super. Alors, une personne qui vient, je ne vais pas désigner un endroit, mais qui prie encore dans une maison, laissez-moi appeler sa maison, où partout, ce sont des herbes. On les appelle des huttes. Des huttes, hein? Ouais. Ou soit une maison à paille avec la boue à côté. Quand il entre ici, il s'étonne. Il dit, ah, et la maison, le temple peut être joli comme ça. Ouais. Peut-être lui, il pensait qu'un endroit comme ça, c'est ce qu'il trouvera au ciel quand il ira auprès du Seigneur. Mais il vous trouve et vous êtes déjà là. Vous savez ce qu'ils sentent. Hein? Alors, permettons que notre CBK puisse au moins avoir un même visage. Ouais, comme ici Paul dit, il faudrait que quand je vienne, je vous trouve déjà prêt. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement du mois de la mission pour que nous puissions nous préparer. Jusqu'à la fin, nous allons offrir. Donc, pendant tout ce mois, nous devons nous trouver responsables. Donc, il faut que la maison de telle part, ou bien la parcelle que nous devons acheter, ou bien la maison pastorale qui doit être construite, ou bien la survie de ces missionnaires qui sont telle part ou telle autre part, je suis responsable, je dois donner ma contribution. Pour que, quand le Seigneur donnera la récompense à ces missionnaires-là qui s'est donné, que moi aussi on m'appelle, on dit, toi aussi tu avais construit le temple de telle part. Et là, je sais que la plupart d'entre nous demanderont au Seigneur, quand est-ce que moi j'ai été là pour construire? Mais il dira, non, quand tu as donné ton 10 dollars, puisque maintenant nous voulons engager les gens pour qu'ils soient des amis de la mission. Le jour là que tu t'es engagé à devenir ami de la mission et que chaque mois tu as donné, je ne sais pas, c'est 2 dollars ou 5 dollars ou 1 dollar, tu étais en train de construire le temple de telle part. Alléluia. Ouais, il faudrait que je sois parmi ceux-là qui seront récompensés. Donc, c'est-à-dire les dons de moi, la prière, tout ce que je peux faire, encouragement et mes biens que je donne pour l'avancement de l'évangile. En Swahili, nous disons toujours que Mungu alala kenade nyamutu. Ouais, un jour, le Seigneur puisse me récompenser. Mes chers frères et sœurs, nous allons chuter. Donc là, j'ai déjà passé en revue tout ce que je devrais dire, puisque nous devons garder aussi, tenir compte du temps. En conclusion, j'aimerais vous dire que notre communauté a un grand projet. Et ce projet-là, c'est l'évangélisation. Et cette évangélisation, bien que nous savons que la mission qui nous est donnée peut avoir plusieurs faces, puisqu'il y a la mission sociale, on peut avoir la mission sociale, c'est aider ceux qui sont en difficulté avec le bien, mais tout ça, nous le mettons dans l'évangélisation. Regardez un peu notre communauté, nous avons des églises, et quand nous construisons nos temples, nous y mettons quelquefois ou bien toujours les écoles. Hey, ce temple, cette paroisse n'a pas une école, hein? Nous, à Himbi 1, nous avons école maternelle, primaire, secondaire et un dispensaire. À travers les projets, nous évangélisons et en même temps, à travers les projets, à travers tout ce que nous faisons là-bas, nous pouvons aussi évangéliser ceux qui viennent. Mais en même temps, nous sommes en train de travailler sur le social de ces gens-là. C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui, le jour où nous lançons notre mois de mission, que nous puissions prendre un engagement. Un engagement, puisque comme Paul supplie les Corinthiens en disant « ne m'embarrassez pas, il ne faudrait pas que je trouve que vous n'êtes pas prêts. » Ouais. Moi-même aussi, quand j'aurai le rapport qu'à Gomaville, ils ont donné autant pour la mission, puisque nous avons la mission interne et la mission externe. Nous sommes aussi liés avec les églises membres de la VEM, n'est-ce pas? Ouais. Nous aussi, nous donnons, la CPK donne aussi quelque chose concernant la mission. Ouais. Alors, que nous ne soyons pas embarrassés, et vos dirigeants de la paroisse, et ceux du secrétariat général, et moi-même qui suis venu faire le lancement, mais quand nous allons voir ce que vous allez donner, il faudrait que nous puissions glorifier le Seigneur et dire, les gens de Gomaville, ils ont leurs ailes, ils ont mis une vivacité, ils ont vivifié leurs ailes, les ailes qui existent, mais ils ont encore mis quelques, on dirait pas, dans ça, et ils ont fait ce à quoi on ne s'attendait pas. Mes chers frères et sœurs, Que Dieu nous aide à matérialiser cette parole et que Dieu nous bénisse toutes et tous. Amen.